En ce troisième dimanche de l'Avent, bienvenue à chacun et chacune. Tout ce temps, c'est un temps propice à l'attente, mais non pas une attente passive, mais à une véritable espérance, à une véritable disponibilité à ce qui vient de favorable, à ce que Dieu peut nous murmurer dans les replis de nos jours ordinaires. Bienvenue en ce troisième dimanche de l'Avent. Je vous invite à vous lever pour chanter déjà une strophe. C'est le 31-17, page 326. Le 31-17, page 326, strophe numéro 1. Que cette heure ensemble soit une halte où nous allons savoir trouver le souffle et aussi l'élan pour aller plus loin. Dieu nous appelle ici, non pas pour nous juger, mais tout simplement pour nous assembler, c'est-à-dire pour faire église. Grâce et paix vous sont données, maintenant et pour toujours, et Amen. Nous chantons maintenant un autre chant, le 31-27, attention, 31-27, page 338, et cette fois nous y chantons les quatre strophes. Je vous invite à vous rasseoir et j'invite aussi les parents et les enfants présents de l'école biblique à venir déjà ici. Seigneur, nous venons devant toi avec nos cœurs qui sont souvent encombrés. Nous confessons les instants où nous avons laissé nos peurs l'emporter sur la confiance. Oui, nous avons préféré le confort à l'engagement. Aide-nous, Seigneur, à revenir à l'essentiel, à tourner de nouveau nos regards vers toi, à recevoir ton pardon et à recevoir ta grâce. Et Amen. Alors, avec les enfants, les parents, nous chantons la première strophe du 32-22 au peuple fidèle. 32-22. Et nous nous levons cette fois pour chanter au peuple fidèle. Nous allons rester debout toute cette partie de la liturgie. Écoutez cette bonne nouvelle. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour venir nous aimer. Il accueille nos retours avec une grande joie. En Christ, il est dit que nous sommes pardonnés, que nous sommes relevés et envoyés à nouveau. Nous recevons ce pardon comme une invitation à avancer avec confiance. Et Amen. Et la strophe 2. T'a fait connaître, humain, ce qui est bien, amour, justice et humilité devant ton Dieu. Dieu nous appelle à vivre sur les fondations de l'amour et de la justice. Il veut, selon la Bible, une fidélité enracinée dans le respect du prochain. Il veut un engagement pour le partage et une attention réelle à sa présence dans nos cœurs d'humains. Il nous invite à incarner ce qui guérit et ce qui ressuscite. Il nous appelle à témoigner tout simplement par ce que nous sommes, à porter les fruits qui disent sa présence au milieu de nous, et il veut que nos vies deviennent des réponses. Amen. Troisième strophe. Complet encore, je vous invite à vous rasseoir.
Avant de lire les Écritures, nous prions ensemble, donc tous à haute voix, mais je vous invite à compléter la phrase finale, le dernier paragraphe de cette prière, avec le mot « promesse » et « fait grandir cette promesse qui donne du courage ». Seigneur, nous voici devant toi, avec nos doutes, nos résistances, et nos élans timides. Nous venons avec nos quotidiens de rêves et de brisures. Nous savons que tu nous accueilles dans les égarements ou les victoires. Alors, donne-nous d'entendre ta voix dans le silence, de saisir ta promesse, et fais grandir cette promesse qui donne du courage pour maintenant. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, le chapitre 3, les versets 10 à 18 que vous avez sur votre feuille de culte. Les foules l'interrogeaient. Que devons-nous donc faire ? Il leur répondait : Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs des taxes aussi vinrent pour recevoir le baptême. Ils lui demandèrent : Maître, que devons-nous faire ? Il leur dit : N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi l'interrogeaient : Et nous ? Que devons-nous faire ? Il leur dit : Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous : Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres encouragements.
Je n'ai rien contre les gens, mais j'ai contre certaines fonctions occupées opportunément par des gens. Il y a une fonction qui pullule en ce moment, c'est celle de coach. Des coachs partout. En français, on ne traduit même plus par entraîneur, car entraîneur, c'est plat. Certains collègues s'investissent comme des coachs spirituels. Voilà une formule qui va te plaire, Claire. Les deux mots d'ailleurs, l'anglicisme et spirituel. Moi, quand j'entends ça, ça me donne des envies de m'auto-excommunier. Bon, aujourd'hui, nous avons Jean, Jean le baptiseur, Jean le baptiste. Jean entraîne, en effet. Il entraîne des foules, mais ces foules, il n'a rien fait pour les séduire. Imaginez un coach de vie à rebours de tous les codes actuels. Pas de costume, pas de barbe bien taillée, pas de lunettes connectées, pas de vidéos stylées, pas de PowerPoint aux couleurs hypnotisantes, pas de slogan creux comme « Soyez vous-même ». Comme ce qui est important, c'est de croire en soi. Agissez contre les pics glucidiques. Likez, partagez, achetez ma formation. Non, celui-ci qui s'appelle Jean et qui baptise, il vit dans le désert. On dit qu'il est très mal habillé. Et il s'adresse à une foule qui sait qu'elle ne peut pas continuer ainsi. Qui n'en peut plus de suivre n'importe qui, n'en peut plus de croire et de faire n'importe quoi. Comme les coachs aujourd'hui, des messies autoproclamés pullulent aussi à cette époque, et statistiquement d'ailleurs et de loin, Jean pourrait en être un, et Jésus aussi pourrait en être un. Jean, le baptiste, le baptiseur, n'a pas de stratégie de communication. Il a cependant une force. Alors, on ne sait pas, évidemment, tout le monde a sa représentation de Jean le Baptiste. J'imagine qu'il ne va pas vous regarder avec un sourire enjôleur ou complice. Il va vous regarder droit dans les yeux, et si vous avez l'envie ou le malheur de poser une question, il va répondre directement. « Que devons-nous faire ?» lui demandent les foules. Et lui, il tranche, « Partagez vos tuniques, ne trichez pas, ne soyez pas violents. » Pas d'abstraction, pas de parabole, juste une réponse nette. Parce que Jean, par sa parole, révèle une chose. Au fond, nous savons ce que nous devons faire, nous le savons depuis toujours. Ce qui manque, ce n'est pas la connaissance de ça, c'est d'écouter ça que nous savons. Jean, c'est celui qui nous met face à nous-mêmes, face à cette évidence logée en nous que nous nous efforçons de recouvrir, de silencer, comme on redit aujourd'hui, et ça, ce n'est pas un anglicisme. Écoutons bien sa réponse en trois coups. Jean donne la réponse aux principaux problèmes de notre époque. Alors évidemment, j'exagère. Mais quand même. D'abord, le manque de solidarité dans le contexte d'une inégalité flagrante entre les gens. Ceux qui ont au minimum le double de ceux, non pas qui ne sont rien, mais qui n'ont presque rien, sont conviés par Jean à équilibrer. À refaire l'équilibre. Et s'il y a une chose que n'aime pas le Dieu biblique tel qu'il est décrit dans la Bible, c'est le déséquilibre. Il ne supporte pas. Ensuite, la corruption. Le foyer infâme de tous les problèmes de notre époque. L'argent, en effet, peine beaucoup à aller là où il devrait aller pour soigner, pour penser, P-A-N-S-E-R, pour réduire le malheur, pour permettre à une femme de ne pas devoir aller accoucher à 40 km de chez elle. Il y a donc la corruption légale, celle qui ne s'appelle pas corruption, alors qu'il s'agit bien de détournement de fonds. Il y a la corruption en zone grise, celle des conflits d'intérêts non officiels, celle-ci entraîne aussi des malheurs, quand par exemple des dirigeants, pris la main dans le sac finalement, provoquent des guerres, entre autres pour échapper aux tribunaux, quand il y en a déjà, et qu'eux-mêmes ne sont pas corrompus. Et puis, il y a la corruption maligne, comme un cancer qui entretient la guerre et la dévastation. Deuxième parole de Jean, quand même. Et enfin, la troisième, il y a le laisser-aller à la violence des forces censées protéger. Ne faites violence à personne, dit explicitement Jean à des soldats. Alors, merci. Pourquoi, finalement, n'en sommes-nous pas restés à l'évangile de Jean le Baptiste ? Cette question, qui a l'air étrange, s'est tout de même réellement posée à l'époque de Jésus, quand beaucoup de personnes considéraient, et ont longtemps considéré, que Jean était le Messie. Mais ce qui rend Jean intéressant, c'est aussi ce qui le limite. Et c'est là, vous me voyez venir évidemment, que commence la mission de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'annule pas Jean, mais qui va le dépasser. Ce dépassement, c'est de cette façon que les évangiles représentent le phénomène. En parlant de passation de pouvoir, là, il est noté de faire une référence à la politique française, et je ne vais pas la faire. En tout cas, cette passation de pouvoir que nous avons dans l'Évangile, à ce propos, entre Jean et Jésus, a du panache. Jean le Baptiste incarne la discipline morale dans toute sa vivacité. Il n'y a aucune ambiguïté dans ses paroles, on comprend ce qu'il dit. Si ces paroles étaient suivies à la lettre, on pourrait croire qu'elles suffiraient à transformer la société. C'est un message radical, mais il a eu besoin d'être dépassé. Tiens. Ce message semble entièrement tourné vers la surface visible de la vie humaine, les actions, les relations, les injustices. Jean en appelle à la conversion des comportements. Pourtant, Jean est quand même universel. Avec cet appel à partager sa tunique, il invite à un retour à la justice première, celle qui établit une égalité des besoins essentiels. Mais cette discipline de Jean s'arrête aux frontières des actes. Elle ne va pas plus profond que ce que nous sommes capables de produire par la simple force de notre volonté. C'est beau. C'est beau ce qu'il dit par sa simplicité et sa radicalité, mais c'est incomplet. C'est incomplet parce qu'il y a eu d'autres chapitres après le chapitre 3. Parce que, bien qu'il répète Jean ce qui est juste, il ne touche pas à autre chose, à ce qui est peut-être plus profond en nous. Il ne touche pas à nos peurs, nos désirs, nos contradictions, notre complexe intimité, notre part d'ombre. Il ne touche pas ce que nous ne savons pas que nous sommes. En somme, Jean nous dit ce qu'il faut faire, d'accord, mais il ne nous aide pas à trouver, lentement peut-être, à trouver le moyen d'aimer ce qu'il faut faire. On va prendre encore un exemple concret. L'injonction de Jean au collecteur d'impôts. Elle est précise, encore une fois, donc en gros, c'est le thème de la corruption. Il dit « ne prenez pas plus que ce qui est dû », une règle juste, mais Jésus, face à un chef des collecteurs d'impôts, qui est nommé Zachée, fait quelque chose de différent. Il ne va pas donner un ordre, il va s'inviter chez lui, il va l'accepter tel qu'il est, de fait, et cette rencontre va bouleverser Zachée de l'intérieur. Il ne va pas se contenter de suivre une règle, il va restituer au quadruple, alors que personne ne lui demandait rien de cet ordre. Le plus de Jésus, ou le mieux de Jésus, c'est sa capacité à transformer non pas seulement nos actes, mais notre direction, nos désirs, nos priorités, notre vision de la vie. Il bascule. Il fait basculer. Alors que Jean déclare avec force « Faites cela et vous allez être juste. » Et il a raison. C'est ça la justice, c'est accomplir le commandement selon la Bible. Jésus répond par autre chose. Accueillez-moi et vous serez transformés. Le mieux de Jésus, c'est qu'il va nous faire poser une question. Et cette question, ce serait la suivante. Qu'est-ce qui se passe avec moi ? Jean nous dit de partager notre manteau et Jésus nous invite à regarder ce qui en nous rend ce geste difficile. Est-ce la peur du manque ? Est-ce le besoin de paraître ? Qu'est-ce qui se passe avec moi quand je passe ma tunique surnuméraire ? Et aussi, qu'est-ce qui se passe avec moi quand, finalement, je ne la donne pas, cette tunique ? Jean nous dit « Agissez juste » et Jésus ajoute « Vivez ». Goûtez à la sensation de vivre en plénitude. En d'autres termes, recevez la vie éternelle. Et cette vie, c'est celle de Dieu en vous, parmi vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, disait Jésus, ce que n'a pas dit Jean. L'autre mieux de Jésus, c'est qu'il ne reste pas un prédicateur isolé. Là où Jean est un homme de la distance, on raconte qu'il est dans le désert, qu'il attend finalement que les gens viennent à lui. Jésus, lui, va à la rencontre des autres, comme celle de Zachée. Il va manger avec des pêcheurs, il touche des lépreux, il parle avec des prostituées, avec des pharisiens, avec des sadducéens. Il se préoccupe aussi des enfants dont personne ne s'occupait véritablement, ne leur conférait une existence valide. Jean, lui, enseigne des commandements, la justice comme un idéal, et Jésus, finalement, l'incarne. C'est flagrant. Jean donne un cadre et Jésus donne une perspective. Jean nous montre comment être digne et Jésus nous montre comment être libre. J'ai déjà une fois, il y a longtemps, raconté l'anecdote suivante. Elle se situe au début de mon ministère, il y a bien longtemps. J'animais l'école biblique avec une bande d'enfants. Et un jour, le thème, c'était le bonheur. Et évidemment, en tant qu'animateur, je posais la question avec un background derrière, hein, parce que je savais ce que je voulais faire, et je ne m'attendais pas à être surpris, forcément, à tort d'ailleurs. Donc je posais la question, qu'est-ce que le bonheur ? Et cette personne de 11 ans, dont j'ai hélas oublié le prénom, m'a répondu, c'est la sensation de vivre. Point. Pas mieux. Voilà comment je passe de Jean à Jésus, mais je respecte le protocole de l'Évangile dans sa narration, évidemment, parce que tout est là pour nous faire dire ce que je tente de vous raconter ce matin. Conclusion, donc, Jean donne ce qu'on peut appeler une éthique utile, d'urgence, peut-être. Il s'adresse à une foule inquiète. Jésus lui apporte mieux. Son mieux est à la fois dispensable, car on pourrait vivre moralement avec les préceptes de Jean. Et d'ailleurs, j'ai longtemps prêché sur cette partie de Jean en disant « C'est suffisant, allez-y avec ça. » Et là, je ne dis plus ça. Dispensable, on pourrait vivre moralement avec les préceptes de Jean, les trois là, par exemple. Et indispensable, Jésus, car il ouvre ce moment de notre vie où les limites de l'éthique sont transcendées par la grâce, où les règles existent encore mais sont transcendées par ce que Jésus appelle la vie éternelle, la vie en abondance. Alors nous pouvons de nouveau respecter Jean, mais c'est Jésus qui nous donne finalement la force de comprendre pourquoi on obéirait aux préceptes de Jean. Il nous pousse à dépasser la simple question que devons-nous faire pour nous en poser une autre. Qui sommes-nous appelés à devenir ? Qu'est-ce qui se passe avec moi ? Mais attention, voilà le piège dans lequel ne doit pas tomber un prédicateur. Attention, si vous retirez la prédication de Jean au message de Jésus, vous allez transformer ce Jésus en vanité. Car des années d'instruction religieuse basées sur la figure du serviteur souffrant, de la victime passive, de la victime muette, du docile, ont transformé Jésus en baudruche. N'oubliez jamais que c'est Jean qui a baptisé Jésus. Et c'est Jean qui a d'abord été la référence de Jésus, avant que même de celle-ci, Jésus s'émancipe, sans la renier. L'éthique de Jean, c'est le nerf de l'évangile de Jésus de Nazareth, à ne jamais oublier. Donc écoutez Jean et recevez en plus la grâce. Et vous aurez la sensation de vivre. Amen. Nous croyons en Dieu qui fait signe, des signes que nous devinons dans les éclaircies ou dans l'ombre. Nous croyons en celui qui parle par les prophètes et qui s'approche encore dans le frémissement des jours. Nous croyons en sa loyauté, une loyauté qui réconforte et, au milieu des ambiguïtés mondaines, qui ne trahit pas. Nous croyons que Dieu nous appelle à marcher, à répondre, à répandre l'Esprit là où nous sommes. Amen. Ce chant, un petit peu que nous chantons très rarement, à tort d'ailleurs, je pense, c'est le 36-22, page 520, les cinq strophes. Donc, vous allez le reconnaître tout de suite et je vous invite à le chanter dans l'esprit dans lequel il a été fait. Je n'en dis pas plus. Et donc, Myriam Saab, qui nous accompagne aujourd'hui, est là pour nous aider à le chanter tel qu'il a été écrit.
Seigneur, en ce temps d'avant, nous te portons nos préoccupations, nos questions et nos vies. Nous pensons aux personnes qui ne vivent plus que dans une seule certitude, celle de la violence qui s'abat. Et nous prions aussi pour les personnes qui espèrent contre toute raison. Nous pensons aussi aux lieux de tension, aux terres fragiles, aux peuples blessés, aux criminels impunis et choyés par les berceuses de la communication. Seigneur, qu'enfin ta justice au ciel vienne aussi sur la terre. Fais surgir des gestes qui restaure et des paroles qui réconcilient. Nous pensons aussi aux personnes qui, autour et près de nous, avancent dans l'épreuve ou la solitude. Donne-nous de savoir les rejoindre avec discrétion et vérité. Enfin, Seigneur, aide-nous à ouvrir nos propres vies. À ne pas nous replier sur nos peurs du lendemain, du présent et du passé. Aide-nous, notre Dieu, à adopter ta présence au cœur de nos vies. Rends-nous fiers de notre foi, humbles dans l'expression de celle-ci, agissant plutôt que parlant, aimable plutôt que moralisateur. Amen. Et nous chantons... Ah, mais c'est le chant de Noël. Donc, le 32-30, page 384. Toutes les strophes. 32-30, page 384.
Thank you.
Que celui qui vous appelle vous donne la force de tenir dans l'attente de la fin de la nuit. Que vos yeux soient ouverts au signe de la présence de Dieu et qu'il vous donne de repartir avec audace et confiance. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne son visage vers vous, vous éclaire et vous donne la paix. Amen.